Si basta tirare la canzone.
Enough is enough.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Si tu me poses des questions sur eux là maintenant, je te jure, ça va pas être propre.
Ah bah vas-y, allez, je te pose pas de questions, mais si tu veux pas être propre.
Attends, je finis d'envoyer ce truc. Il me tue.
Je suis client.
Il crie, putain, mais tout le temps, quoi. Guillaume, il était là, il parlait comme ça. Après, c'est le tour de Pierre-Emmanuel. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il bugle.
Dans le camion, dans partout.
Tout le temps.
Est-ce que t'es dans les mêmes logements qu'eux?
Non, putain, quand je peux ne pas l'être, oui, je le suis pas.
Par exemple, Adi?
Bah, Adi, c'est cool parce que je suis avec Pierre qui est calme parce qu'il est sourd et Ramzi qui est calme parce qu'il est calme. Voilà.
C'est ton chef?
Non, c'est mon ami. Moi, lui, il dira que je suis sa collègue. Mais l'amour, tu sais, c'est pas toujours dans les deux sens.
Qu'est-ce que t'as envie de dire, Juliette, sur Di?
Que je suis très triste depuis qu'on est arrivé.
Ça me ravage.
Je suis hyper triste. Puis j'ai parlé quand on est le jour où on a su qu'on allait, jouer à faire ça à huis clos. Je voyais la tête des bénévoles et leur profonde tristesse qui n'a rien à voir avec. On s'en fout. On va faire à huis clos, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais eux, c'est chez eux, quoi. C'est affreux. Non, c'est affreux.
On aurait pu s'imaginer. Que vous partiez ou...
Oui, enfin oui. Mais peut-être qu'on n'a pas pris la meilleure décision, je sais pas. Mais ça, on a pris celle qui nous a semblé juste sur le moment, comme dirait Steve McQueen, ça nous a semblé être une bonne idée.
Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu travailles maintenant?
Mal.
Comment tu fais ta chronique?
Eh ben, là par exemple pour Di. J'ai essayé de me renseigner sur la ville et en fait ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux c'est le Vercors. Vercors étant un de mes écrivains préférés, parce qu'il a su raconter ce que c'était que la France occupée, parce qu'il l'a fait en 1942. Donc c'est une histoire de gens qui gardent le silence, qui pactisent pas, qui font ce qu'ils peuvent à leur niveau. Et donc voilà, je réfléchis par rapport à ça et à trouver... comment le langage peut par moment être une arme, comment le silence est une arme aussi, et voilà, c'est comme ça que j'ai construit ma chronique.
C'est un peu des thématiques, enfin c'est les tiennes, le point entre le silence, se taire, ne pas dire les choses sont les choses affreuses. À quel moment toi t'as eu envie de faire ça à la radio?
Parce que je pense que, en fait c'est vraiment hyper basique. Ma mère était prof de lettres, c'était une splendide prof de lettres. Je sais parce que je l'ai eu en cours.
Difficile ça des fois, non?
Non, parce qu'on avait une relation... à cette époque-là, c'était vraiment une relation facile, quoi. Puis moi, j'étais une adolescente très docile, donc non. Et puis c'était une super prof. C'est vraiment une super prof. Et avant ça, de toute façon, moi, j'aimais lire et j'aimais surtout raconter des histoires. C'était souvent moi qui endormais les autres enfants le soir en racontant des histoires. Ou en les inventant, ou en leur lisant des trucs et tout. Et donc finalement, à la radio, j'ai un peu l'impression de faire la même chose. J'ai l'impression de... C'est le moment de la berceuse.
C'est vrai, et franchement, alors, entre ton rire et ta diction, il y a un truc qui est assez magique chez toi, assez envoûtant. Je sais pas si on te l'a déjà dit.
Non.
Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, sur tes chroniques?
Ce qu'ils me disent, ce qui me fait vraiment le plus plaisir... C'est les gens qui me disent « je lis pas, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que j'ai un peu de littérature dans ma vie. » Voilà. Et je trouve ça honnête déjà, puisqu'en fait, la plupart des gens, ils lisent pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est super chouette de lire, mais c'est pas grave de pas lire. Et souvent, les gens, ils lisent pas parce qu'en plus, ça les angoisse, parce qu'ils ont peur d'être cons. Et ça, je trouve ça nul.
Pourquoi c'est pas grave de pas lire?
Parce que littéralement, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont graves dans la vie. Être un salaud, c'est grave. Une mauvaise personne, c'est grave. Pas faire attention aux autres, c'est grave. Ne pas lire. Ne pas jouer du piano. En plus, c'est devenu un sport bourgeois, donc... non, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, en avoir l'appétit et pas se l'autoriser parce qu'on pense qu'on est un con ou une conne, qu'on est trop bête, ça, c'est vraiment nul à chier.
Ouais, mais il y a un vrai problème aujourd'hui avec la littérature, elle n'est plus présentée de la même manière, il n'y a plus rien de sexy, il n'y a plus... Enfin, à part peut-être la BD, mais du coup, c'est un peu... Toi, de dire que c'est pas grave, bah, à la limite, on se dit, bon, bah, au moins, on fera plus cet effort.
Mais moi, je peux pas dire que c'est grave. Je peux pas classer ça dans les choses graves. Ça m'embête. Parce que moi, je sais ce que ça me procure, à quel point ça m'émancipe, à quel point ça me permet d'être heureuse. Ça me donne de la joie. Mais il y a plein de gens qui font plein d'autres trucs qui leur donnent de la joie et qui, moi, m'en donnent pas. Donc, je vois pas pourquoi la lecture, ça serait... Enfin, comment moi, je pourrais arriver en disant « Non, mais moi, mon truc à moi, il est mieux que vos trucs à vous. » C'est un peu à chier, quand même.
Oui, c'est plus sur le côté que c'est quelque chose qui forcément invite à s'évader, qui va entretenir aussi une partie du cerveau, de l'oralité, ouais, de la littérature.
Oui, et puis qui te permet des fois de comprendre des trucs que dans la vraie vie, tu n'arrives pas à comprendre.
Ça, c'est grave de passer à côté, non ?
C'est dommage. C'est grave qui ne me va pas, en fait. Tu vois, c'est grave, je trouve ça pas juste. Trop. Voilà. Moi, je connais des tas de gens qui vont très bien et ils lisent pas. Je connais des tas de gens qui lisent et qui vont pas bien. Il n'y a pas de règles. Par contre, je crois que même les gens qui n'aiment pas lire, eh ben, ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Et ils aiment bien que de temps en temps, ils aient entendu une ou deux phrases de Zola et ils se disent « Ah ben moi, ça m'a plu, ça. » Et peut-être que c'est une graine, tu sais, comme les fleurs vagabondes. Tu la jettes dans le vent, puis à un moment, elle fait une rose trémière.
T'as pas mal tourné avant avec un spectacle notamment, qui t'a sans doute fait tourner un peu partout en France. Ouais. Est-ce que t'as encore une activité qui te fait tourner en non. France, en dehors de ça ?
Non. Non, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait cet exercice.
Ça te manquait ?
Alors, je trouve ça mieux ce qu'on fait, parce qu'au théâtre, t'arrives, tu répètes, tu joues, tu repars. Là, on arrive 2 jours avant. C'est pas pareil. Moi, j'ai l'impression que toutes les petites villes où on est allé, je les connais un peu. Je peux dire, je les connais un peu. Quand je faisais des tournées de théâtre, j'avais pas cette sensation-là. Donc, voilà.
Et ça, c'est parce que du coup, vous donnez le temps de rencontrer des gens, d'habiter chez eux un moment.
D'arriver 2 jours avant. Donc pouvoir, ne serait-ce que se promener dans chaque ville, quoi, de voir à peu près comment elle est construite, comment ont l'air d'être les gens, qu'est-ce qu'ils vous racontent tout de suite, spontanément, à propos de là où ils vivent. On a le temps de ça. Quand on joue au théâtre, c'est pas vrai. T'arrives, tu répètes, tu joues, avec un peu de chance, il y a un resto qui est ouvert le soir, et merci, bonsoir.
Qu'est-ce que t'as retenu de dire, alors ?
Que c'était extrêmement joli. Je m'attendais pas à un endroit aussi gracieux. Et j'avais pas prévu que en fait, on est arrivé en voiture de craie, et j'avais pas prévu le choc que ça allait me faire de voir arriver le Vercors. Et pourtant, je l'avais lu, hein, sous les lignes écrites par Vercors lui-même. Mais quand même, ça m'a... J'ai eu la langue qui se collait au palais de... Comment il le décrit dans un bouquin, il dit « un navire inoubliable ». Mais c'est vraiment ça, moi j'avais l'impression de voir un putain de porte-avions qui était en train d'avancer vers nous, quoi. Donc voilà, c'est extrêmement joli et en même temps extrêmement imposant. Enfin, tout ce qu'il y a autour est super imposant.
Ouais, massif, quoi.
Oui, c'est pas pour rigoler, quoi, c'est pas de la colline.
Et quand t'es du côté de Saint-Étienne, est-ce que t'es jamais redescendu
C'est en Ardèche que j'allais, moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'Ardèche du Sud. Barjac, Vallon-Pont-d'Arc, Vagnas. Voilà. Moi, c'est là que j'allais. Donc forcément, si c'est l'Ardèche, c'est pas la Drôme. Mais j'ai une tante qui vit à Cray.
Et quoi d'autre ? Tu parlais des gens ?
J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens de gauche. Non, mais c'est vrai. Il y a des villes, t'arrives, t'as tous les signes que... Tu sais où t'es ? T'as pas de doute quand t'arrives à la boule de comment ça vote. Et là, en rentrant dans Dix, tu fais « Bon, bah là, je pense qu'on est dans une ville de gauche. »
Vas-y, donne des...
Mais je sais pas, il y a un restaurant végétarien, alors que c'est pas une grande ville. Enfin, ouais, voilà, des conneries dans ce goût-là, mais qui sont hyper importantes. Je suis végétarienne, donc tant que faire...
Il y en a pas qu'un, en plus.
Puis il y a des tags sur les murs, il y a des choses qui disent des choses ultra précises. Et je la trouve... elle est vraiment très très jolie, votre ville, quoi. Non ? Enfin, je sais pas, c'est l'effet qu'elle m'a fait.
Si je te pose pas de questions, est-ce que t'as envie d'y répondre quand même ?
Non. On a déjà répondu aux questions qu'on me posait. Alors. Enjoy the silence.
Merci Juliette.
Ben merci beaucoup.
Radio Nova. La dernière tournée. Guillaume Meurice, Juliette Armand. Guillaume, excuse-moi.
Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ?
Eh bien, figure-toi que j'ai une excellente mémoire. Il me semble que Macron, en 2022, il avait promis à le renouvellement de la flotte et tout ce qui est canadair français achète 4 supplémentaires d'ici la fin de son mandat.
Ah, 4 canadairs ?
Oui, alors, attends, oui, alors, en fait, au final, ce sera 2.
Ça, c'est...
Oui, non, mais 2 canadairs, c'est pas la flotte.
Alors, oui.
Ça, c'est sur l'intro de l'émission. Il faudra que tout soit ouvert. Tout le monde va intervenir.
Il y a quelque chose pour la sécurité.
Oui, en 2024, il a baissé son budget de 12 millions d'euros et il a aussi supprimé des centaines de postes à l'Office national des forêts.
Mais pourquoi ?
Et bien, parce qu'il préfère acheter des porte-avions et des grenades de défense à plan. Parce que figure-toi que c'est une gigantesque cul à
main. Alors, attends. Merci, Pierre, quand même, pour les précisions. Donc, Pierre-Emmanuel est avec nous. Là, ça va quand même, Pierre ?
Oui, ça va, mais j'avais pas fini. Je voulais dire que c'est une gigantesque cul à
main. Voilà. On a une pensée pour tous les pompiers, pour les humains déplacés, pour les paysages dévastés.
Pour les animaux aussi.
Oui, Juliette, car c'est vrai que le second pays de la chèvre en elle. Une fois que la tristesse est collée aujourd'hui, Juliette, très tôt.
On est triste, bien sûr, mais l'humour triomphera.
Oui, par exemple, tu cherches une montagne chaude dans ta région, envoie 10 ou 8, 12, 12.
Que la merde.
C'est pas ce que j'ai fait. Bon, pas certain pour le triomphe, t'es bien qu'on fait là, ça va.
Blablabla.
On arrête, t'es pas gentil.
Et chapeau à vous, les amis, blablabla, c'est la pub.
Super.
Arrête.
On fait le dispositif du jeu, histoire de voir.
Ah ouais,
sans faire les questions.
Ça se passe comment, le jeu, du coup?
Mal.
Oui, mais à part ça...
Moi, j'ai un petit doute sur... tu cherches une montagne chaude dans ta région, ça...
Juste là.
Mais ouais, chef, du coup.
Non, c'est là.
Non, mais en fait, il faisait un relis par rapport à...
Non, mais c'est pas grave.
Mais non,
on comprend.
Ouais, ça... donc c'était quoi ta question, pardon?
Alors j'ai dit oui, ils sont
Ils vont se mettre là, mais face à...
Face à où?
Ouais, enfin...
Ouais,
je parle avec... Ouais, pardon.
Je gère.
Juliette?
Oui.
Mais on peut déplacer la table?
Merci bien. Et quand vous serez là,
vous serez éclairé. Vous répétez le jeu,
pardon, c'est ça?
Oui, c'est dans tous les cas, c'est du froid. Faut que je rappelle de Catherine pour ce qu'ils m'ont dit. Faut juste qu'on sache avant qui mange avant, qui mange après, mais peut-être qu'ils ont exagéré. Moi, je voulais avoir un problème, c'est que.
Ramzi,
on joue, c'est la bande de joute.
Quelle question je peux poser?
C'est chiant toutes ces mouches là.
Alors, circonstance particulière, candidat particulier, vous êtes avec qui, Juliette?
Je suis avec...
Cantis,
il travaille dans l'émission La Dernière avec nous en tournée.
Ah oui?
Cantis, il est couteau suisse. Ça veut dire qu'il sait faire plein de choses. Et je lui demandais quelle est ta chanson d'amour préférée.
Et je vais répondre, Philippe Catherine, des bisous.
Après, je vais lui dire, tu te sens de t'en chanter un petit peu, s'il te plaît, Cantis, puisque t'es un couteau suisse.
Je vais faire semblant d'hésiter un petit peu et je vais la chanter. Et donc, toi, tu t'appelles quoi?
Juliette.
Juliette, quelle est ton histoire d'amour préférée dans la littérature? À vous poste... Ouais, sinon, vous tous les deux.
C'est Aurélien dans Aurélien d'Aragon, avec Bérénice. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide.
L'arbitre est toujours là. Pierre-Emmanuel Barré est toujours là.
Super, le plus beau genre de ma vie.
Impeccable. Et on joue pour un cadeau un petit peu particulier, puisque comme ça... Donc, ça sera Théo et Lolo. Ah, c'est Coco et Cantis.
Pour des raisons
de parité. Ok, eh bien vous jouez pour un cadeau un peu particulier, le renouvellement de votre contrat pour la saison prochaine.
Vous êtes content?
Oui, j'ai vu. Et le reste des goodies et d'AirCop, parce qu'on en a encore plein. Et on sait plus quoi en foutre. Allez, on y va, première question, Juliette.
Non, c'est bon, on fait pas les questions, comme ça on garde...
Attendez, juste on peut essayer Coco, on n'a pas fait nos tests. Ouais. Et donc, tu t'appelles comment?
Coco.
Tu t'appelles comment?
Coco.
Tu fais quoi dans la vie, Coco?
Community manager.
Quel est ton chroniqueur préféré?
Aymeric Longuet.
Tu peux le faire?
Elle a perdu.
Ah, voilà.
Même si la vie, c'est pas que l'argent. J'plie mes yebis en origami. Ça, je sais que c'est comme un tsunade. Équipe de balai comme un tsunami. Dans mon cercle, on est carré. Chaud comme la pointe du calibre. Prêt à tout pour protéger la famille. Je les vois même si je vois le lacarar. Nous, j'adore une bias. Téléphone, ta fille, ben je m'y prache, j'y sais, c'est ça. T'as l'air lié, kiff le frère, j'aime que. Deep, deep inside my soul, I feel it, I know. I've been here before. Ancestors on my shoulders, guide me back to source. Guide me back to you. ناقصاني تا شي بركه مولف الحساده والحراره سول كلتوم وباهيه طلق الكلاب عليهم الا داروا شي حركه كنهز الراس ما كنهش الهم انتوما شفت الدم في السين سي لا كون فيني ريكول سكو تو سيم سي بيكون سي سي دو بيمون لا صوص ماروكين دوموند d'où vient ta force, c'est dans mon ADN. Deep, deep inside my soul, I feel it, I know. I've been here before. Ancestors on my shoulders, guide me back to source. Guide me back to your eyes.
Bonjour, éco-terroriste.
Bonjour.
C'est quoi ton prénom?
Je m'appelle Gwen.
Bonjour Gwen, tu représentes NERCOP sur cette tournée. D'abord pourquoi?
Parce que NERCOP est l'énergie militante et NERCOP sponsorise la tournée de la dernière. Donc voilà, on accompagne toute l'équipe sur toutes les dates. On a notre stand sur toutes les dates et en fait, voilà, on fait la promotion aussi de qui on est. On est une coopérative d'énergie renouvelable qui fournit et produit des énergies renouvelables citoyennes, solidaires et locales.
Est-ce que Diwat, là, qui est là localement, il tourne pour NERCOP?
Diwat, oui, ils sont producteurs pour nous. Il y en a même un partenariat sur un parc qu'on vient de développer à Oust-sur-Scie, où Diwat a une boucle d'autoconsommation collective.
Est-ce que vous êtes des NERCOP locaux?
Oui, en fait, il y a 13 NERCOP locales. Et donc, en fonction de chaque date, eh ben, il y a eu une NERCOP locale sur la date. On a eu Bretagne, on a eu Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, PACA et maintenant Aura. Et il y a même Nord-Est aussi, avec Bussang.
Voilà, donc c'est pour ça que tu peux répondre en local.
Exactement.
Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand?
Eh bien là, on propose des cahiers de vacances de l'été qui sont hyper fun. Il y a plein de jeux de mots, plein de références à l'écoterrorisme justement. Et c'est vraiment très fun. On propose aussi 40€ de réduction sur la première facture parce que bah, nous, on invite aussi les gens dans leur propre transition écologique à passer à une énergie 100% renouvelable et locale. Et donc voilà, on offre aux futurs clients 40€ sur leur première facture. Avec un code NOVA, voilà, tout spécialement conçu pour la tournée. On parle de nos projets parce qu'on est aussi producteur d'énergie renouvelable avec plein de parcs photovoltaïques en région. Donc on est aussi là pour faire de la pédagogie sur notre manière de faire des énergies renouvelables.
Et on peut se faire tatouer une éolienne.
Et oui. Et comme la tournée a commencé en juin sur le mois des fiertés, on a des jolies couleurs du mois des fiertés. Voilà, parce qu'on est aussi hyper proactif sur les avancées sociales. On est vraiment dans les luttes en fait sociales et écologiques, et donc on est vraiment rattaché à tout l'écosystème des luttes, quoi. On est assez militant dans l'ADN et dans les équipes.
On a parlé de Diwat, donc qui est déjà une coopérative sur le plan local et qui donc va produire de l'électricité, de l'énergie renouvelable et donc être connecté aussi à votre réseau. Sinon, c'est qui peut produire pour vous? Un particulier peut le faire? Il faut être...
Alors, on a des collectivités, on a des professionnels. Les particuliers, non, parce qu'en fait, ce n'est pas des volumes assez intéressants pour racheter de l'électricité.
Quand tu dis des professionnels, c'est donc...
Ah bah ça peut être des entreprises, je sais pas, qui ont du PV en toiture et qui vont revendre leur élec.
Donc un agriculteur qui a des kilomètres de toiture.
Oui, après j'ai pas tous les producteurs en tête, mais effectivement ça fait partie des producteurs locaux. Et on a aussi les collectifs citoyens, donc les collectifs citoyens producteurs d'énergie renouvelable, bah comme Diwat, voilà, on l'a cité tout à l'heure, à qui on vient racheter l'élec. Donc c'est trois typologies de producteurs.
Et donc, quand on parle de collectivité, ça veut dire des collectivités qui auraient mis au point soit de l'hydro, soit du photovoltaïque à grande ampleur?
Oui, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, le vertueux, c'est que bah, nous, on rachète les LEC et ensuite, ça vient aussi nourrir notre modèle. Et ensuite, bah, nos consommateuristes vont consommer l'électricité que nous, on aura rachetée en local parce qu'on contractualise en direct avec nos producteuristes. On achète la production et la garantie d'origine. C'est vraiment une spécificité d'Enercoop.
Pour revenir sur la dernière, tu nous disais que vous avez envie d'être dans l'ensemble de l'écosystème des luttes. Il y a même une gouvernance particulière à Enercoop. De quelle manière ça a été décidé à un moment donné? Bon, on y va, on suit la dernière, on finance cette tournée en partie.
Eh ben en fait, c'est vraiment raccord avec nos valeurs. On prône une transition écologique au sens large du terme. Et en fait, bah, on trouve que La Dernière et Radio Nova font vraiment la promotion de cette transition qui, ouais, sous le signe en fait de la justice et aussi de la dénonciation du système capitaliste, même si on sait que Nova appartient à Mathieu Pigasse, mais voilà, c'est...
Il y a une régie pub quand même.
Une régie pub, voilà, effectivement de Lagardère. Mais en même temps...
Bolloré, je sais plus.
Ouais, oui, Bolloré, je sais plus. Mais en tout cas, c'est compliqué de faire anti-système dans le système, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut choisir ses combats et il faut choisir les endroits où on peut être le plus militant possible et le plus engagé. Et donc bah, on a trouvé vraiment que La Dernière correspondait parfaitement à ça avec un public affinitaire dans les valeurs, quoi, au maximum.
Mais du coup, qui est venu nous chercher? C'est La Dernière, c'est Nova, c'est cette équipe-là qui a besoin d'un sponsor? C'est vous qui les approchez?
Alors il me semble que c'était côté Combat.
Combat, la société de Pigasse.
Ouais, c'est ça, qui a contacté Enercoop, si je dis pas de bêtises, parce que moi je suis Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis à la com en Aura. Et après, c'est plutôt, enfin, c'est toutes mes collègues en fait à la communication à Enercoop qui a son siège à Paris, enfin la coopérative qui est à Paris, qui a mis en place le partenariat. Voilà. Mais je crois que ça vient de Combat, effectivement. En tout cas, l'idée nous a vraiment séduites parce que bah, on est les seuls. Donc c'est vraiment une visibilité assez incroyable et en fait on se sent en famille, quoi.
Vous êtes chers par rapport aux autres?
Non, ça va, surtout que nous on a vraiment des enjeux de sobriété et donc on fait tout notre possible pour que nos clientes et nos clients aient les factures les moins chères possibles.
Et donc décroissent.
Et décroissent, exactement, on est vraiment sur ce modèle, enfin on réduit au maximum, quoi, nos charges Et en fait, par rapport aux concurrents, on a vraiment stabilisé nos coûts, quoi. Après, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus cher par rapport à d'autres fournisseurs, mais l'écart est vraiment très minime, hein. Mais c'est parce qu'on rémunère nos producteurs aussi. Voilà, on achète l'électricité renouvelable de manière honnête. Donc c'est une manière de tenir notre promesse aussi, quoi. Donc on a des coûts un petit peu plus... élevé, mais c'est vraiment moindre et franchement on arrive à stabiliser nos coûts. Et c'est en ça aussi qu'Enercoop est différent dans le rachat de l'ELEC, c'est qu'on a des contrats de rachat qui vont jusqu'à 30 ans. Donc en fait nous, ce qu'on cherche dans notre modèle, c'est à stabiliser au maximum nos coûts pour que les factures de nos clients se stabilisent. En fait, c'est de chercher notre indépendance par rapport au marché de l'ELEC.
Voilà, comme moi je ne fais pas une enquête sur Enercop, j'irai pas plus loin. À vous, auditrices, auditeurs, d'aller chercher si tout ceci est vrai. Vous ferez votre propre avis. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur Die ?
Sur Die, je trouve que c'est une chouette ville. Alors après, je ne connais pas très bien la Drôme, à mon grand regret, mais ça fait partie de mes sujets de prochains, peut-être de mieux visiter la Drôme. Mais je trouve que c'est une région hyper alternative, dynamique, très sympathique, chaleureuse. On a fait notre assemblée générale à Oust-sur-Scie, là où on a développé notre parc photovoltaïque récemment, et on a adoré passer cette journée à Oust-sur-Scie, en plus avec des watts pour la demi-journée. Et voilà.
Est-ce que tu veux une parole libre ?
Là, ce soir, c'est particulier parce qu'on est. Moi, je me trouve en pleine dissonance en fait entre ces feux de forêt et une soirée incroyable avec des gens incroyables que j'ai toujours, j'ai 35 ans, donc c'est pas toute ma vie, mais que j'ai longtemps rêvé de rencontrer à l'équipe de Guillaume Meurice avec Juliette, Émeric et Pierre-Emmanuel. Donc je me trouve vraiment dans cette dissonance un peu compliquée, quoi, à me dire le monde brûle, littéralement. On a les yeux rivés sur les fumées qui s'échappent et on a forcément des fortes pensées pour les pompiers et toutes les équipes qui mènent de front cette guerre contre le feu. Et nous, on est là à passer une soirée à critiquer ce modèle capitaliste et à faire ce qu'on peut pour changer les choses à une échelle collective. Donc voilà, c'est un moment particulier.
Et qui résonne d'autant mieux.
Et qui résonne d'autant mieux, c'est ça, ouais.
Merci Gwen.
Merci à toi, c'était un plaisir.
T'as bien signé des autographes ?
Je déteste signer des autographes à part quand c'est pour un chèque. C'est quoi la radio ?
C'est la radio locale.
Oh, comment ça s'appelle ?
RDWA.
RDWA, dis donc, bonjour.
Tu veux dire quelque chose à RDWA ?
Oui, je voulais vous dire que vous faites un super boulot. Et ça, tu vois, tu rigoles. Non, vous faites un bon boulot et c'est vrai que... Est-ce que l'émission va être retransmise sur RDWA ce soir ? Bon bah je vais essayer de m'appliquer alors parce que j'aimerais postuler pour RDWA.
Par contre, si un jour effectivement il y en a un de vous qui se fait virer, cherchez pas une web radio comme avait dit VDB, venez dans une radio locale.
Alors je pense que si l'un de nous se fait virer, les trois autres s'en vont. Je pense qu'on est liés comme ça. Excuse-moi, je vais prendre des chips. Bonjour. Mais je crois que je préfère parler au barman qu'à RDWA, je suis désolé. Ça va ?
Ouais, ça va, ouais, et toi ?
Bon, on est un peu triste quand même.
Oui, bah oui, je te le fais pas dire. Un peu. C'est un peu glauque, hein ?
Un peu glauque. Mais on va essayer de rigoler.
La chanson de Gwendoline, La fin du monde, je sais pas si tu connais ce groupe, Gwendoline, c'est le nom du groupe. Et le titre s'appelle La fin du monde. C'est un peu ça.
Il y a Vive le feu aussi.
Ça parle à la fin du monde. Mais ouais, on va rigoler quand même ?
Est-ce qu'on peut rire avant l'apocalypse ?
Bah après, on a fait des blagues sur Gaza, donc... Après, on n'était pas à Gaza. Pas le problème.
Là, vous n'êtes pas dans le feu non plus ?
Non, mais on n'est vraiment pas loin. Et il y a plein de gens ici qui ont des maisons qui sont dans le feu, je pense.
Tu avais déjà été aussi près d'un feu ?
Non, jamais. À part le feu de cheminée de Montretout, parce que je rendais souvent en visite à la famille Le Pen. Et ils avaient une énorme cheminée.
Tu avais une question, Xavier ?
Ouais, moi, tu serais pas italien ?
Pourquoi ?
Je sais pas, Lampredusa.
Je t'avais dit qu'elle était plus drôle que moi. De toute façon, ceux qui sont au bar sont toujours plus drôles que les autres.
C'est pour ça que tu y passes du temps.
Oui. Bisous, RDWA.
Ah, des radios. Bah ça, y en a. Mais des comme RDWA, y en a pas.
Salut, Loris.
Salut.
Enchanté.
C'est quoi ton travail ?
Moi, je suis chargé de production sur la tournée avec Théo Sebald, un DIWA. Et on s'occupe de toute l'organisation de la tournée de cet été, quoi.
Théo m'a dit que t'étais, on va dire, régisseur à l'année, toi, pour Nova ?
Ouais, c'est ça. Je m'occupe de la dernière à l'année. Je m'occupe des grands remplaçants quand ils vont dans d'autres villes. Donc quand on en a fait une à Marseille ou quand on se déplace dans des festivals. Et je me suis occupé jusqu'à cette année de la riposte aussi avec une collègue qui s'appelle Céline.
T'es embauché de Nova ou t'es un intermittent ?
Je suis intermittent, moi. Moi, je suis intermittent, ouais. Je suis intermittent depuis 7 mois, je crois. Ah, ça me permet... J'étais freelance. Enfin, j'étais en auto-entrepreneur, mais... C'est mieux l'intermittence.
Voilà, c'est pour comprendre un peu ce que nous, on a tellement des fonctionnements différents en radio locale. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton travail sur cette tournée, par exemple ?
au quotidien. L'essentiel du travail va consister à avoir des réunions avec les villes ou les associations avec qui on travaille sur l'organisation en général, donc le planning détaillé de la journée, les lieux, la connexion internet pour qu'une émission de radio soit bien diffusée. Voilà, toutes ces questions-là. Et j'ai une autre partie qui va plus concerner l'équipe, où je vais être le booking, enfin la réservation des hôtels, la réservation des restaurants, où est-ce qu'on garde les véhicules, parce qu'on a des véhicules qui ont quand même beaucoup de matériel et qui sont assez sensibles, donc faut qu'on les garde aux bons endroits. Voilà, c'est beaucoup de logistique et de technique, et s'assurer que toutes les équipes soient bien, et bien tout ce qu'elles demandent, et voilà. C'est beaucoup de... On materne beaucoup.
Ouais, Théo a dit la même chose. Comment tu les maternes ?
Moi, j'essaye de m'assurer de pas être... Enfin, qu'ils aient vraiment... M'assurer qu'ils soient bien. Un bon hôtel, qu'ils se sentent bien dans la ville où on est.
On est bien d'accord qu'on parle pas que des 4 stars de cette émission.
Non, on parle de 18 à des fois 22 personnes en tout. Donc on s'assure aussi à ce qu'ils arrivent au bon moment, au bon endroit. C'est répondre à beaucoup de demandes. Ils sont pas du tout chiants, donc ça c'est cool. Mais ça reste quand même... C'est comme... ça reste 20 personnes à gérer au quotidien. Donc c'est...
Qu'est-ce que t'aimes dans ce travail ?
Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le côté organisation et voir le... pour un projet comme ça, de se dire on fait une émission gratuite dans des villes de moins de 50 000 habitants. En réalité, on a quand même fait une majorité de villes de moins de 20 000 habitants. Et c'est voir le projet prendre forme et avoir quelque chose d'humain. On partage beaucoup de choses et au final, on monte quelque chose tous ensemble. C'est pas juste Nova qui vient et qui dit on met notre émission là et on s'en fout, on parle à personne. Non, c'est vraiment une co-construction avec les équipes locales et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est aussi passer des moments ensemble. Tu vois, en vrai, c'est tout con, mais sortir un peu des studios de Paris et passer des moments à aller se baigner dans la Drôme ensemble, c'est cool, quoi. C'est ces moments-là, et c'est vivre aussi, faire vivre une émission dans des lieux chouettes et partager une parole qui était de moins en moins présente ces dernières années et dont on a besoin aujourd'hui, donc voilà.
Le reste du temps, c'est une session à l'européen et on se voit pas de la semaine.
On a quand même une réunion par semaine, tous les jeudis, où on va souvent manger ensemble après. Mais effectivement, on a beaucoup moins ce temps en commun. Parce que là, le contexte d'une tournée, c'est qu'on apprend vraiment aussi à connaître les gens, à connaître leur sensibilité sur certains points qu'on ne voit pas quand on est chacun dans notre appartement ou maison.
Tu veux dire quoi ? Des angoisses, des stress, des...
Ouais, même autre chose,
des bonnes
choses
aussi,
des bonnes choses aussi, des bons moments qu'on passe. Mais c'est sûr qu'on a moins l'occasion à Paris de vivre ces moments-là, quoi. Et c'est beaucoup plus automatique, On est aussi à Paris, il y a beaucoup de choses à dire en vrai là-dessus, mais où l'accès à la culture est très facile. On a un public qui est toujours le même. On a nos habitudes, quoi. Là, c'est un peu plus un challenge quand tu t'arrives et tu sais que ça va être bien, mais t'as toujours des inconnus, donc c'est ça qui est intéressant aussi quand tu te déplaces ailleurs, quoi.
J'ai bien aimé quand t'as dit c'est pas l'émission de Nova qui se pointe, qui se pose et qui fait son truc et qui s'en va comme quelque chose d'assez consommateur. Est-ce que c'est parce que c'est pas la volonté de Nova ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment la volonté de l'équipe de la dernière ?
C'est la volonté de l'équipe de la dernière en premier lieu et je veux dire qu'avec Théo on avait aussi, c'est pas pour qu'on se jette des fleurs mais... Ça nous tenait à cœur de pas être dans ce rapport-là, parce que pour nous, ça n'avait aucun sens d'être dans un rapport de consommation d'un spectacle. Et on se pose, on fait notre émission, on se barre le lendemain et personne ne s'est parlé. Et on a noué aucun lien. Au final, là, c'est la 7e étape sur les 9, et dans chaque ville où on est passé, on a créé du lien, on a rencontré beaucoup de locaux et. Et voilà, à la fin, ça fait un gros moment partagé et on sait que si on repasse par ces endroits-là, on reverra ces gens-là et on passera un bon moment, quoi. C'était ça aussi qui était important. Et c'était aussi pas arriver avec nos gros sabots de Parisiens, même si Théo et moi, on n'est pas Parisiens. Mais c'était ça aussi, c'est de dire, bah ouais, mais aussi, quand on avait des contacts avec les locaux, de dire, bah c'est aussi votre territoire et vous le connaissez mieux que nous, donc c'est une co-construction, quoi.
Oui, parce qu'on peut se poser la question de ce gros coup de pub quelque part, mais en même temps, c'est souvent dans des zones, c'est le cas à Die, où finalement Nova ne passe pas.
Il y avait déjà y a une inspiration qui est le film Radio Star qui est un peu mal vieilli, mais c'est pas grave. Et de deux, il y avait une autre motivation, c'est que en gros, chaque année, on fait 5 émissions hors de Paris.
Mais toujours dans les grandes villes.
Voilà, exactement. Et au final, là, le but était d'aller dans des endroits où on va pas du tout, hors de ces grandes agglomérations. Et on a reçu beaucoup de candidatures et après, on a dû faire un choix, quoi.
Mais voilà, comment vous l'avez fait, ce choix ?
Bah, en fait, c'est l'équipe déjà qui a. En vrai, c'est les 5 qui ont choisi quand même.
Okay, mais Guillaume, il me dit que c'est vous.
Bah, nous, en fait, on a fait une présélection. Il y avait un truc qu'on regardait et qui nous permettait de dire ok, on peut continuer avec ces villes-là. C'était voir si elles avaient l'habitude d'organiser des événements et après, c'est l'équipe qui a choisi. Et nous, en fait, on a fait un panel, je crois que c'était 25 villes, je crois. On a fait un panel et l'équipe a dit bon, bah voilà, on présentait les villes et après, ça a été un choix. Ça a été un choix aussi de parcours, parce qu'il y avait une vraie volonté de faire un tour de France. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu as envie de dire de Die ?
Ah, bah, c'est super, Die. Moi, j'adore. Enfin, en mode son, je suis déjà venu deux fois, puisque je suis en vrai, on travaille ensemble avec Théo depuis 4 ans et. Et toutes les fois où j'y suis allé, c'était trop cool, j'aime trop, c'est trop vivant. Après, j'y suis allé que l'été, mais il y a une trop bonne ambiance, ça a l'air d'être une ville quand même de bonne gauchia, c'est cool. Et ouais, il a l'air de se passer plein de choses, et ouais. J'aime la Drôme, c'est cool. On peut s'y baigner, on peut... Après là, on est dans un contexte un peu particulier, mais...
T'as fait quelque chose, ça, ou pas ?
Ouais, même si en vrai nous, ne vivons pas ici, je me disais, bah, je sais pas, ça m'atteint peut-être moins, mais hier là, quand on est arrivé, il y avait Mathieu et Laurent, Mathieu qui nous disait, ouais, je vais faire ma valise parce qu'on demande d'évacuer le village, tu te dis tout de suite, ah ouais, il y a d'autres enjeux derrière, enfin c'est pas juste la forêt qui, même si c'est la forêt qui crame, mais malgré, bah, c'est une destruction de la biodiversité, enfin de plein de choses, mais là, quand ça touche aussi des gens directement impliqués dans l'organisation, tu fais, ah ouais. Tu remets un peu sur les choses, mais bon, c'est comme ça aussi, quoi. On va passer un bon moment et ça sera chouette. C'est aussi une manière de vivre cet événement et voilà. Et on reviendra. Je le promets pas, mais on essaiera.
Si je te pose pas de questions, est-ce que tu veux y répondre quand même ?
Peut-être pas de questions, mais juste un gros. Un gros chapeau aux radios associatives. Moi, j'ai commencé dans une radio associative à Toulon qui s'appelle Radio Active. Et chapeau pour le travail. Voilà, c'est hyper important qu'elles existent et pour défendre la culture de ces endroits-là et de ces villes, villages. Et c'est hyper important. Et ça fait. Ça donne plein de perspectives à des jeunes gens. Ça fait découvrir de la musique et pas que des films. Voilà, c'est un truc hyper important pour la culture. Quoi. Voilà.
Merci Laurie.
Ben merci à toi.
Rien, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne voient rien, ne sentent rien, ceux qui n'ont rien, qui n'écoutent rien, ceux qui ne font rien, ceux qui ne disent rien. La 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 la. Ceux qui ne savent rien, ceux qui ne sont rien, ceux qui ne voient rien, ceux qui n'ont rien, ceux qui ne croient rien, ceux qui ne tentent rien, les autres contre les uns. C'est bien. Je n'en sais rien, faites quelque chose pour.
ont dit qu'ils ne sont rien. Et pour qu'enfin ce monde explose de ces mots pas anodins, crions au loin à haute dose.
Salut Ramzi.
Salut.
C'est quoi ton travail ?
Je suis le rédacteur en chef de La Dernière.
Que de La Dernière ?
La Dernière et d'autres émissions sur Nova, comme La Matinale de la Nuit, avec Aymeric Lompré, tous les mardis à 22h. Je te fais la pub, hein, au passage.
Bien sûr, bien sûr.
Comment t'es arrivé à ce poste ?
Moi, j'ai travaillé à Canal+, avant. J'étais auteur pour différentes émissions, La Matinale, tout ça. J'ai basculé à France Inter, où j'ai rejoint l'équipe de Guillaume, Charline, Van Nacker, Alex Vizorek.
T'étais déjà leur rédac chef.
Et je suis arrivé d'abord en tant qu'auteur. Donc au départ, c'était juste sur de l'écriture. Et après, au bout d'une saison, je suis devenu rédacteur en chef de l'émission. Ouais. Et après, quand Guillaume a eu sa fameuse affaire, je l'ai suivi, je suis parti et on a atterri sur Nova.
Ah oui, t'es le premier à avoir suivi ?
Je suis pas le premier, mais en tout cas, je fais partie avec Juliette, avec Aymeric, de ceux qui se disaient que c'était pas possible de continuer d'écrire des blagues dans ce cadre-là, dans ce contexte-là où toute blague est contrôlée et jugée par des gens qui ne maîtrisent pas forcément le droit.
Alors Guillaume nous a dit qu'il avait pas de co-auteur, Pierre M, il en a un, Aymeric, c'est Pierre M. Juliette m'a rien dit. Du coup, c'est quoi le travail d'un rédac chef sur une émission comme celle-ci ?
Alors ici, moi, j'ai moins d'écriture que sur Inter, parce que sur Inter, il y avait une grosse partie écriture. Ici, c'est
qui
plus...
Qui consiste à quoi ? Tiens, vas-y,
qui consiste, ben, par exemple, sur Inter, on avait un sketch de fin d'émission qu'on faisait jouer à l'invité. Et ben, moi, j'écrivais la première version du sketch. Ensuite, je la filais soit à Juliette, soit à Alex Vizorek. Et ensuite, eux, ils mettaient leur sauce et ils réadaptaient. Donc, j'écrivais toujours les V1 de certaines séquences, comme aussi on avait un faux journal d'actualité. J'écrivais quelques blagues pour le faux journal, tout ça. Là, il y a moins d'écriture. Donc, la rédaction chef, c'est plus m'assurer que chaque chroniqueur fasse un truc inédit, dans le sens où on prend des sujets un peu, faire en sorte que les sujets soient un peu différents, qu'on traite à peu près toute l'actualité de la semaine dans l'émission. Donc c'est travailler avec les chroniqueurs. Ensuite, pour certains chroniqueurs, c'est de la relecture, peut-être de temps en temps ajouter quelques blagues, les aider à coucher de certaines blagues. Et ensuite, c'est choisir les chroniqueurs, travailler avec Guillaume sur les sujets qui vont être traités dans l'émission. Voilà, globalement, c'est ça.
Par exemple, c'est toi qui vas appeler VDB, Adouli
Ouais, exactement, c'est moi qui vais chercher les chroniqueurs qu'on peut mettre dans l'émission et ensuite qui va les caler en fonction de ce qu'on souhaite faire dans l'émission, en fonction de l'équilibre. Et puis il y a une partie aussi co-écriture de temps en temps sur les parties collectives de l'émission. La revue de presse locale, tout ça, je les aide à trouver les actualités qui peuvent être un peu drôles et je les aide à écrire quand il y a un manque d'inspiration ou un manque d'idées.
Donc, par exemple, là, c'est toi qui épluches sur chacune de la dernière tournée la presse locale, les petits trucs du coin.
Tout à fait, ouais. Je cherche toutes les actualités, je les mets sur sur le Google Doc qu'on a. Et puis ensuite, eux, ils piochent les actualités qui les intéressent. S'il n'y en a pas qui les intéressent, ils vont en chercher d'autres, ça, ce qui peut arriver de temps en temps. Et puis ensuite, ils écrivent chacun un peu de leur côté, ou de temps en temps, avec Juliette, on écrit ensemble. Et puis, quand on fait la répétition, on ajoute encore des blagues de temps en temps pour améliorer encore le truc, pour que ce soit un vrai truc collectif.
Mais du coup, c'est quoi ton parcours pour écrire des blagues ou machin ? Tu viens d'où ?
Je viens de Lyon, je viens d'un master qui a duré que 2 ans à l'université Lyon 3, la belle université d'extrême droite de Lyon. Un master
en... Est-ce qu'elle est d'extrême droite, cette université ?
Oui, totalement, ouais, ouais. C'est là où enseignait Bruno Gollnisch, le bras droit de Jean-Marie Le Pen, donc oui, oui. Mais nous, on était un master audiovisuel, donc on était un peu les punk à chiens de cette université. Et donc, ouais, j'ai un master en écriture audiovisuelle, et puis en fait, après, j'ai eu la chance d'écrire assez vite pour des gens à Canal+. Voilà.
Et toujours des blagues ?
Ouais. enfin c'est ça, parfois ça peut être des trucs un peu plus sérieux parce qu'après j'ai travaillé un peu dans le documentaire et dans des choses un peu plus sérieuses, mais mon truc principal c'est ouais c'est les blagues.
T'es drôle?
Non, je suis pas drôle, mais j'arrive à rendre les gens drôles. C'est différent.
J'ai découvert du coup qu'il y avait un filage sur cette émission. Le filage, donc, c'est une répétition, une sorte de répétition générale avant. Pourquoi est-ce que cette émission-là est faite comme ça? Est-ce que toutes les émissions que tu as faites, que ce soit Canal ou Inter, étaient faites de cette manière-là? Il y a un côté un peu comme une pièce de théâtre qui...
Ouais, parce qu'en fait, là, c'est vraiment quatre copains qui travaillent ensemble. C'est pas chacun vient dans son couloir de nage, fait sa chronique et fait... les quatre travaillent ensemble, on communique ensemble toute la semaine. Pierre, c'est marrant parce que lui, il préempte les sujets très vite. Il nous dit quasiment trois semaines avant, je vais faire ce sujet-là dans trois semaines, tout ça. Et en fait, on travaille vraiment tous ensemble sur la conception de l'émission. Et c'est peut-être ça qui ressort un petit peu à l'écoute. C'est que, en fait, comme ils se connaissent très bien, ils savent exactement qui va rebondir sur quoi, comment chacun va réagir sur chaque truc. Donc même les trucs improvisés, en réalité, on les connaît un petit peu parce qu'on se connaît tous très bien. Et les trucs qui sont écrits comme la revue de presse ou le jeu ou les choses comme ça, bah on les écrit collectivement et donc on sait, et c'est pour ça qu'il faut les répéter, qu'il faut pour ajouter des blagues et ajouter des choses qui fonctionnent pas forcément à l'écrit mais qui fonctionnent quand on les joue ensemble.
Et rédacteur en chef, on s'imagine que y a chef dedans, ça veut dire est-ce que tu as dû imposer un rythme?
Non, enfin, en réalité c'est un titre rédacteur en chef, mais c'est plus producteur de l'émission, c'est vraiment la fabrication pure de l'émission. C'est faire en sorte que l'émission se... donc par exemple, pour cette émission d'été, on a dû fabriquer un nouveau conducteur. Donc le conducteur, c'est les différentes séquences de l'émission. Et on a dû les fabriquer. Donc c'est moi qui ai fait la base de comment on va rythmer l'émission pour avoir
l'ordre
des séquences et même la création des séquences pour trouver les séquences qu'on va mettre dans l'émission. Par exemple, l'invité, l'humoriste local, il y a une séquence là-dessus sur la tournée. C'est moi qui ai suggéré parce qu'on avait un moment beaucoup trop de choses sérieuses, il fallait ajouter une séquence un peu drôle, donc on réfléchissait et j'ai suggéré qu'on prenne un humoriste local. Et mon rôle, c'est de fabriquer plus qu'un rôle de chef des quatre, parce que de toute façon ils sont incontrôlables, donc je peux rien cheffer du tout.
Tout ça passe après, du coup tu as choisi l'humoriste local, c'est qui, pourquoi?
Alors Adi, bizarrement c'est l'endroit où j'ai le plus galéré, parce que les humoristes locaux, moi je les ai cherchés sur internet, sur Instagram, tout ça, et Adi, je trouvais personne, c'était compliqué, donc j'ai fait un appel à candidature sur Instagram, et Rémi Soja, donc c'est l'humoriste qu'on a écouté dans la dernière, a candidaté, et il a été appuyé par une humoriste qui est chroniqueuse dans notre émission, qui s'appelle Mamari. Il a fait ses premières parties. Il vient de Lyon.
Ça va.
C'est pas très loin, mais il vit à Paris. Mais sa famille travaille ici à Die. Donc lui, il a ce lien quand même avec Die, où il vient régulièrement. Il est venu jouer la semaine dernière ici. Donc il connaît très bien Die.
Et l'invité?
Et l'invité, c'est Guillaume qui l'a choisi. Donc c'est Mathilde Himmer. Mais c'est Guillaume qui nous propose des noms et ensuite nous on valide ou non ces noms, mais c'est vraiment lui qui porte ça.
Qu'est-ce que tu as envie de dire sur Die?
C'est charmant. Non, c'est magnifique. C'est très beau. Bon, ça sent un peu la fumée en ce moment, mais c'est une des plus belles villes qu'on ait faites là sur la tournée. Moi j'ai deux coups de cœur, c'est Navarin et c'est Die pour l'instant.
Et encore, tu n'as même pas rencontré le public.
Et ouais, malheureusement, on peut pas les voir, mais la ville, le centre-ville, tout est magnifique. Nous, on loge un peu sur les hauteurs et tout, c'est fantastique, c'est calme, c'est apaisant, c'est trop bien.
J'en ai entendu plusieurs qui disent que du coup, il va falloir revenir l'année prochaine. Est-ce que tu vas appuyer ça?
Tout à fait. Ouais, on est obligé. On a raté la rencontre, il faut qu'on la fasse l'année prochaine, il faut qu'on trouve une solution pour rattraper ça et pour faire une émission en public, en extérieur, avec les 3000 personnes qui étaient prévues l'année prochaine. Il faut qu'on trouve une solution, on la trouvera.
Et maintenant, je ne te pose pas de questions, mais il faut que tu y répondes quand même.
Ok, demain, j'ai prévu vraiment de rien faire de la journée, de profiter, de faire peut-être une petite randonnée, et puis après, dormir et dormir avant de repartir à Annonay jeudi matin.
Merci Ramzi.
Merci à toi.